Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, il a enflammé le court central jusqu'au bout de la nuit. Raphaël Nadal, vainqueur d'un duel mémorable contre Novak Djokovic. Beaucoup d'émotions dans le public. Nous y serons, Anaïs, après les autres titres.
Une mission flash pour mieux faire avec les urgences à l'hôpital. Proposition hier du chef de l'État. Avec la guerre en Ukraine, le Danemark s'apprête à rejoindre finalement la politique de défense européenne. Et puis restauration exceptionnelle, celle du grand mammouth du Muséum d'Histoire Naturelle.
Et nos invités ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Écoutez, je ne suis pas sûre que nos auditeurs de plus de 40 ans le connaissent, mais pour les moins de 30 ans, c'est une véritable star qu'on reçoit. Le jeune qui cartonne dans l'univers des jeux vidéo. Il organise des grandes compétitions qui réussissent à récolter des millions d'euros pour les grandes causes humanitaires. On reçoit un phénomène générationnel, je vous assure. Adrien Nougaret, alias Zerator, et je vous assure qu'on va apprendre des trucs.
À tout à l'heure, Léa, ce sera donc à 7h50, à 8h20, le grand entretien de la matinale avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Vous pourrez dialoguer avec lui, le standard vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. L'épisode 59 de la série Nadal Djokovic aura bien tenu toutes ses promesses. Rebondissement, suspense et public tenu en haleine jusqu'au milieu de la nuit. Cette énième confrontation entre ces deux géants du tennis a bousculé la logique. Raphaël Nadal indestructible sera bien en demi-finale à Roland-Garros. Victoire en 4-7 contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic. 6-2, 4-6, 6-2 et 7-6 au jeu décisif. Plus de 4 heures de combat suivi par un public largement acquis à l'Espagnol et Jérôme Val qui a eu l'impression de vivre un match de légende.
Il est 1h15 cette nuit quand Raphaël Nadal marque le point victorieux au terme d'un combat une nouvelle fois homérique face au numéro 1 mondial.
C'est comme une finale de Coupe du Monde de foot. Hein. On avait les deux meilleurs du monde et c'était exceptionnel. Exceptionnel.
Des jeux à rallonge, des points venus d'ailleurs, deux joueurs qui ne laissent rien filer, malgré la fatigue d'un match qui a duré 4h12 dans un court central chauffé à bleu.
C'est une émotion particulière, on a une session en plus, il y a toujours beaucoup plus d'ambiance, on est toujours plus dedans. Et là, avec un match comme ça, une intensité folle, deux joueurs exceptionnels, des points à couper le souffle, donc vraiment incroyable.
Et le finish avec Nadal qui gagne. C'est un vrai bonheur.
Les spectateurs, dont certains recouverts d'un plaid pour contrer la fraîcheur de la nuit, ont vécu un 59e duel Nadal-Djokovic qui laissera une trace indélébile dans l'histoire au terme d'une nuit magique.
C'est même plus étonnant à quel point il est fort et on est trop heureux. Et même lui, on a vu vraiment qu'il a eu une émotion particulière et il nous l'a fait ressentir et c'est magnifique, franchement.
Raphaël Nadal l'a répété à plusieurs reprises sur le court. Merci à ce public. Plus que jamais derrière cet indétrônable champion.
Maintenant, Dodo,
c'est pas sûr. On va fêter la victoire.
Mais ce public parisien remercié à la fin de la rencontre par Raphaël Nadal lui-même.
Merci, 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 and merci à tout le monde. C'est pour moi incroyable. La soutien, c'est incroyable pour moi. C'est le tournoi le plus important de ma carrière. Et sentir tout le soutien de vous, c'est pour moi très très spécial. Merci beaucoup.
Raphaël Nadal sur le central hier à Roland-Garros, immense champion, dit de lui son adversaire d'hier, Novak Djokovic. L'Espagnol disputera vendredi, le jour de ses 36 ans, la demi-finale contre le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, qui a mis fin au rêve du jeune Carlos Alcaraz, éliminé en 4-7 hier soir.
Il est 7h04, une mission flash pour résoudre le problème des urgences en France.
Proposition d'Emmanuel Macron hier à Cherbourg, premier déplacement sur le terrain depuis un mois, au contact de soignants en pleine crise. 20% des 620 établissements publics ou privés qui hébergent un service d'urgence sont touchés. Alors le chef de l'État confie une mission d'un mois à François Braun, le président SAMU Urgence de France, avant un diagnostic plus complet qui sera censé apporter des solutions à long terme, Simon Le Baron.
Y aura-t-il suffisamment de bras pour que les urgences puissent tenir cet été ? Réponse prudente d'Emmanuel Macron.
Je peux vous garantir qu'on fera tout pour qu'elles tiennent. Mais il faut être responsable et dire la vérité, je l'ai toujours fait. Il y a des situations très critiques.
Et l'été sera déjà là quand la mission qu'il vient de lancer rendra ses conclusions dans un mois. Le président le reconnaît.
Il n'y a pas de recette miracle.
Mais une énième concertation est-elle vraiment utile pour prendre conscience de la situation de l'hôpital ?
C'est vrai qu'on dit que les problèmes sont connus. Je les ai même moi-même décrits il y a 5 ans. J'avais fait un discours sur ma santé 2022. Mais on a besoin de changer de méthode. collectivement, c'est-à-dire de redonner de la liberté, de la souplesse, de la capacité à innover sur le terrain.
Cette nouvelle méthode, grande promesse de campagne, qui doit permettre, dit-il, de trouver des solutions adaptées territoire par territoire.
L'organisation qu'on doit trouver entre Cherbourg et Saint-Lô n'a rien à voir avec celle qu'on va trouver en banlieue parisienne et celle qu'on va trouver dans la grande ruralité.
Il veut la décliner sur la santé et sur l'école, thème de son prochain déplacement demain à Marseille. Cela prendra des mois, voire des années, une politique du temps long, quand lui-même a fait de ces deux thèmes des urgences de son nouveau quinquennat.
Une mission flash qui ne convainc pas pour l'instant le collectif Interurgence, puisqu'il y a déjà eu, dit-il, des rapports de l'Assemblée et du Sénat. Et alors que l'hôpital craque, l'inflation continue de grignoter le pouvoir d'achat. La barre des 5% dépassée en mai pour la première fois depuis 1985. C'est pire encore dans la zone euro, autour de 8%. Le gouvernement prévoit de présenter un projet de loi sur le pouvoir d'achat après les législatives. Delphine Simon, quand on fait le compte de toutes les promesses, la facture sera sans doute assez lourde pour le budget de l'État.
L'inflation progresse à tous les rayons, produits alimentaires, services, biens manufacturés et prix de l'énergie, plus 28% sur un an. Il va falloir prolonger le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà, et compenser le blocage des prix, ce qui coûtera 2 milliards d'euros de plus à l'État. Dès cet été, le Parlement doit débattre d'une ristourne accordée aux automobilistes gros rouleurs. On piste aussi un chèque alimentation d'environ 60 euros par mois promis aux plus modestes. Le gouvernement veut aussi indexer certaines pensions du régime général sur l'inflation. Le contour de la mesure reste flou, mais pour écouter, selon le think tank libéral IFRAP, 7 milliards d'euros par an. La valeur du point d'indice des fonctionnaires revalorisée, autant de nouvelles dépenses qui s'ajoutent aux 26 milliards d'euros déjà prévus pour le pouvoir d'achat, auquel il faut ajouter un manque à gagner, la suppression de la redevance audiovisuelle, 3 milliards d'euros en moins. L'inflation allège la dette publique, mais la Banque Centrale Européenne est sous pression. Elle pourrait décider plus rapidement que prévu de remonter les taux d'intérêt.
Et de toutes ces questions, on en reparle avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, invité du Grand Entretien à 8h20. Encore une bataille de chiffres, ceux avancés par le gouvernement sur le nombre de faux billets qui auraient provoqué la pagaille au Stade de France. 30 à 40 000 selon le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, seront auditionnés par le Sénat cet après-midi. Le géant du lait Lactalis, mis en examen pour escroquerie, tromperie et fraude après l'ouverture par le parquet de Rennes d'une information judiciaire pour falsification. C'est par hasard qu'un client de Lactalis avait découvert le poteau rose en 2018. La société Serval, basée dans les Deux-Sèvres, elle fabrique des aliments pour l'allaitement des veaux et s'est rendu compte qu'une partie du lactosérum vendu pendant des années n'était en fait qu'un sous-produit du lait. Écoutez maître Alexandre Varro, l'avocat de la société.
Nous avons découvert dans le cadre d'une expertise que le lactosérum était coupé de perméa à hauteur d'au moins 30%. Le perméa, c'est un sous-produit du lait qui ne contient plus aucune protéine, en quelque sorte le dernier déchet de l'utilisation du lait. L'intérêt pour Lactalis, c'est que le perméa, ça ne vaut rien, et que donc 30% de ce qu'il nous vendait ne valait rien, mais que nous achetions pour 100% de la valeur d'un lactosérum qui était censé avoir une valeur nutritive pour les veaux. Et en fait, on s'en est rendu compte d'une manière assez amusante, puisque ce sont les veaux qui l'ont constaté. Et les veaux ont refusé de boire ces mélanges, parce que le perméa a une odeur extrêmement désagréable du raie, et eux, ils ont compris ce que nous ne pouvions pas comprendre par les analyses chimiques.
Maître Alexandre Varro, l'avocat de Serval, avec Pierre Viau, l'entreprise évalue son préjudice à plusieurs millions d'euros. Une enquête interne ouverte chez les pompiers du Nord après des accusations de harcèlement sexuel. Le témoignage de deux jeunes femmes dans la Voie du Nord, des dossiers inconnus de la hiérarchie, dit le service départemental d'incendie et de secours.
Il est 7h09, les forces russes, Anaïs, contrôlent presque toute la ville de Severodonetsk.
C'est le gouverneur ukrainien de la région qui le dit. La ville serait d'ailleurs détruite à 90% et toujours sous les bombardements aveugles. Hier, une usine chimique a été touché, un réservoir d'acide nitrique a explosé. Cette nuit, les États-Unis ont décidé de fournir à l'Ukraine des systèmes de missiles plus perfectionnés, des lance-roquettes multiples de portée de 80 km. Et dans cette guerre qui fait bouger les cartes de la géopolitique, le Danemark est sur le point de tourner la page de trois décennies qui le tenaient éloigné de la politique de défense de l'Union européenne avec un référendum organisé aujourd'hui, Marie-Pierre Véraud.
Le Royaume est en effet effet le seul État membre de l'Union européenne à avoir une clause d'opt-out, d'exemption en matière de défense. Il ne participe pas aux opérations militaires conjointes de l'Union, une exception à laquelle le gouvernement entend mettre un terme au nom de la paix et de la sécurité, explique la première ministre Mette Frederiksen. Sans cette clause, dit-elle, le Danemark, la Suède et la Finlande pourraient travailler plus étroitement à la sécurité de notre propre région. C'est un choix crucial qui nous attend le 1er juin, à un moment critique pour chacun de nous. Les temps historiques que plaide le gouvernement appellent une décision historique. Les Danois diront-ils oui ? L'extrême droite et une partie de la gauche font en tout cas campagne pour garder cette exception au nom de la démocratie et afin de ne pas se laisser entraîner dans des guerres voulues par d'autres, explique dans une vidéo Lav Broch du Parti social-libéral danois. Il pointe la convergence entre la France, l'Italie, l'Allemagne pour cette politique européenne de défense, ajoutant que les intérêts de la France ne coïncident pas toujours avec la promotion de la paix. Les Danois avaient été les premiers à rejeter le traité de Maastricht avant de dire non par référendum encore à l'euro. Cette fois, les sondages donnent le oui en tête, mais l'abstention pourrait être très élevée.
Résultat attendu tard ce soir. Et puis le Danemark, par ailleurs, privé de gaz russe. Aujourd'hui, Gazprom coupe ses livraisons au pays qui ne paye pas en roubles. Aux États-Unis, la petite ville d'Uvalde a commencé hier à enterrer ses morts une semaine après la tuerie. Les funérailles des 19 enfants et leurs enseignantes s'étendront jusque mi-juin. À Paris, victoire des défenseurs de la nature, la vingtaine d'arbres au pied de la tour Eiffel ne seront finalement pas coupés. Devant la bronca, la mairie de Paris s'est engagée à réexaminer ses futurs projets urbains avec objectif zéro abattage d'arbres. Enfin, voici le mammouth le plus iconique de France, celui qui trône dans la galerie de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Un grand mâle d'1 million d'années installé sur son socle depuis 1898 qui méritait bien une nouvelle jeunesse. L'opération exceptionnelle de restauration vient de démarrer, Sophie Bécherel.
Voilà l'effervescence du chantier.
Au milieu de centaines de fossiles d'espèces disparues, la directrice de la galerie de paléontologie, Cécile Collin, nous guide vers le spécimen emblématique.
Donc là, à l'œuvre, en fait, il y a les restaurateurs qui accompagnent vraiment l'équipe qui s'occupe de manipuler, démonter, dévisser et poser au sol. C'est assez impressionnant aussi parce que c'est la première fois grâce à cet échafaudage qu'on approche aussi près du spécimen.
Un mammouth méridional, celui-là faisait 4,30 m de haut et devait peser 8 à 10 tonnes. C'est le premier découvert en Europe et il est quasi complet, confirme le paléontologue Régis De Bruyne.
Il manque quelques os très rares, il manque une fibula par exemple, donc un de ces os fins au niveau d'une des pattes arrière. Il manque quelques vertèbres, notamment au niveau des vertèbres de la queue. Et puis après, il y a pas mal d'ossements pour lesquels une partie de l'ossement a été sinon reconstruite, du moins partiellement remodelé.
C'est le cas du crâne qui ressemble un peu trop à celui d'un éléphant. Pour en avoir le cœur net, il sera passé aux rayons X. Ensuite, place au nettoyage, à la consolidation, la restauration et au remontage. L'étape la plus délicate, selon Stéphane Pennec, directeur de la société Ainu, à qui a été confié ce travail.
Le mammouth est présenté dans des mauvaises connexions anatomiques, c'est-à-dire qu'il a les fesses trop hautes, sa démarche est mauvaise. Il a été mis comme on imaginait qu'était un mammouth au 19e.
Les erreurs de l'époque seront corrigées, mais tout le reste sera présenté à l'identique.
Et fin du chantier en février prochain.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes. Sa Majesté Elisabeth II. Et après...